Quatrième partie, les sept royaumes du prince Crapaud. Ami passa deux jours couché, abruti par la drogue, à attendre que ses douleurs s'assoupissent. « Il faudrait partir, se répétait-elle. L'endroit est trop isolé. On pourrait nous y assassiner à coups de fusil sans déranger personne. » Un sentiment de danger imminent la pressait de reprendre la route. Le château constituait l'endroit idéal pour une exécution sans témoin. Un tueur pouvait commodément s'embusquer dans les taillis, à la lisière de la forêt, attendre que ses proies accroissent sa ligne de mire et presser la détente en toute quiétude. Il ne risquait pas qu'un voisin dresse l'oreille et téléphone à la police. Or, Amy ne voulait pas être abattue sans avoir eu l'occasion de s'expliquer. Elle espérait encore signer un pacte de non-agression avec ses anciens employeurs. Quand elle se sentit mieux, elle demanda. « Comment peut-on partir d'ici ? Angus disposait-il d'un moyen de transport ?»« Oui, répondit Sharon. Il avait un camion, sinon il n'aurait jamais pu amener ici tout ce matériel. Il l'a caché dans les bois car il avait peur que les militaires le réquisitionnent. Je sais où. Il est recouvert d'une toile de camouflage. Je suis tombée dessus par hasard au printemps dernier. Et il est en état de marche ?
Sans doute.
Tu sais conduire ?
Je l'espère.
Alors on ira dès que tu seras capable de tenir debout. » Amy sombra dans la somnolence. Elle avait découvert qu'elle aimait se réveiller pour voir sa fille penchée sur elle ou vaquant des occupations ménagères. Ce climat d'intimité éveillait en elle des sentiments confus de bonheur perdu. Comme si ce climat d'attendrissement la mettait mal à l'aise, Sharon prit les mesures adéquates pour y couper court. Un soir, alors qu'elle était plantée au chevet d'Amy, les poings sur les hanches, elle dit d'un ton moqueur. « Tu es pire qu'un nouveau-né. On pourrait te rouler dans la farine avec une facilité déconcertante. Quelle preuve as-tu après tout que je suis bien ta fille ?» Et non Alicia, hein ? Aucune ? Si ça se trouve, je suis la gosse des Monroe, la môme des domestiques, et je te raconte des boniments depuis le début pour que tu t'occupes de moi. Tu y as pensé ?
Oui, fit Amy en soutenant le regard dominateur de l'adolescente.
Mais est-ce que ça a vraiment de l'importance ?
Je ne me souviens ni de Sharon ni d'Alicia. Alors, pourquoi aurais-je une préférence ?
Tu ne sens rien au fond de toi. Un élan, une reconnaissance instinctive. Quelque chose qui t'affirme que je suis ta chair et ton sang.
Amy soupira.
Non, fit-elle. Tu as trop lu de romans victoriens. Dans la réalité, les choses ne se passent pas ainsi. Je ne vois qu'une chose. Nous sommes toutes deux perdues, à la dérive. Nous pouvons tenter de nous associer au lieu de nous faire la guerre. Je te le répète, je ne suis plus la femme que tu as connue. Les reproches que tu me fais s'adressent à une autre qui s'en est allée avec le morceau de cervelle que j'ai perdu. » Au moment où elle prononçait ces mots, elle eut conscience de simplifier à outrance. Mais elle n'avait guère de temps à consacrer aux provocations de l'adolescente. Quand Amy fut capable de marcher, elles rassemblèrent leur paquetage. Prévoyant qu'elles seraient forcées de camper, elles emportèrent le réchaud à alcool, les sacs de couchage, sans oublier divers outils prélevés dans la trousse d'Angus. Ces précautions prises, elles s'enfoncèrent dans la forêt, Sharon allait en tête, tantôt bavarde comme une pie, tantôt silencieuse. Elle évoquait le château, son père, l'ennui, ses prises de bec incessantes avec Alicia, la domesticité terrorisée par les colères du lord. « En fait, marmonna-t-elle, la vie est devenue vraiment pénible quand père a commencé à perdre la vue. Ce n'est pas qu'il était aveugle, non, mais il voyait flou. Il avait beau mettre des lunettes, il n'y avait aucune amélioration. Je crois qu'il aurait préféré qu'on lui coupe bras et jambes. Mais ça, c'était la pire des malédictions. Il ne pouvait plus contempler ses chers tableaux. C'était la fin du monde. »
A-t-il consulté un spécialiste sans qu'il y ait mis pour entretenir la conversation ?
Oui, un type est venu de Londres avec tout un attirail, mais il n'y a rien compris.
Quand il a commencé à parler de maladie imaginaire, Père l'a chassé en l'accablant d'injures.
Ami remarqua que la forêt s'éclaircissait. Une odeur désagréable flottait dans l'air.
On approche des marécages, expliqua Sharon. Le coin est dangereux. Les paysans l'évitent comme la peste. Il y a des sables mouvants.
Tout à coup, le paysage changea. Ami et Sharon se retrouvèrent en face d'un grand fouillis d'arbres brisé à mi-hauteur et dont l'écroulement avait ouvert une sorte de piste à travers la forêt.
« Qu'est-ce que c'est ? » demanda la jeune femme.
« Un chantier de bûcheron ?»
L'adolescente haussa les épaules.
« Ne dis pas d'ânerie, » répliqua-t-elle. « Les bûcherons ne coupent pas les troncs d'arbres à cette hauteur-là. »«
Non, c'est un avion qui a fait ça, en s'écrasant. »«
Je pense qu'il a essayé de se poser, mais il a percuté les arbres. »
« Un avion ?» s'étonna Ami. « Où est-il »«
Là-bas, au bord du marécage. »
La jeune femme pressa le pas. Soudain, le souffle lui manqua. L'une des ailes de l'appareil avait été arrachée lors de la collision. Elle s'était plantée dans le sol, à la verticale, tel un grand totem de fer. L'emblème qui s'y trouvait peint ne laissait planer aucune équivoque.
Une croix allemande, constata Ami. Probablement un Junker, un chasseur bombardier. Depuis quand est-il là ?
Sans doute s'agissait-il d'un appareil abattu au-dessus de la zone interdite alors qu'il bombardait les fausses usines de carton-pâte installées dans la plaine ?
Il n'était pas tombé tout de suite. Il avait plané en utilisant les courants aériens avant de s'enfoncer dans un coin de la forêt.
Le reste de la carcasse est là-bas, précisa Sharon. L'hélice est plantée dans la vase. Quand je vivais avec la mère Collins, j'allais la voir chaque fois qu'on passait par ici. Mais il n'y a personne dans la carlingue. Pas de cadavre, rien.
Sais-tu si les fausses usines étaient déjà installées sur la prairie quand il est tombé, sans qu'il y ait mis ?
Non, répondit l'adolescente d'un ton catégorique. À l'époque, il n'y avait que des vaches.
Les usines sont seulement là depuis 6 mois. J'ai découvert la carcasse de l'avion 3 mois après l'incendie, alors que la vieille m'apprenait à reconnaître les plantes médicinales. Elle m'a dit qu'il était tombé la nuit où le château a brûlé. Et même qu'elle avait cru que l'appareil s'était écrasé après nous avoir bombardés.
Mais il n'y a pas eu de bombardement, n'est-ce pas ? Insista Ami.
Sharon plissa la bouche avec colère.
« Je t'ai déjà raconté ce qui s'est passé, » cracha-t-elle. « J'ai mis le feu à la maison pour te sauver. Tu n'as pas encore compris ça ? Pour te sauver. Et tout le monde est mort à cause de nous. Alicia, les domestiques, la gouvernante, Miss Hancock, ma préceptrice, nous les avons tous tués. Aucun n'a réussi à sortir du château. Ils ont été asphyxiés par la fumée avant d'avoir pu atteindre la porte. C'est notre crime. Nous sommes liés par cette chose horrible, comme si nous avions signé un pacte de sang. »
Ami leva la main en signe de capitulation. Elle se méfiait des envolées lyriques de Sharon qui se terminaient généralement en crise de nerfs.
« On ne parle plus d'avion, d'accord ? » murmura-t-elle. « Trouvons ce camion et fichons le camp d'ici. »
Elles finirent par dénicher le véhicule dissimulé sous une bâche comme l'avait annoncé la jeune fille. Des bidons d'essence avaient été entassés sur la plateforme en prévision d'un éventuel retour. Ami s'installa au volant, vida son esprit et, s'en remettant à son instinct, laissa ses mains aller et venir sur le tableau de bord. Bien entretenu, le moteur démarra à la première sollicitation. La boîte à gants contenait de nombreuses cartes de la région, une boussole, une pipe et une blague à tabac. Ami posa les paumes sur le volant, les pieds sur les pédales et tenta sa chance. 3 minutes plus tard, elle comprit qu'elle savait conduire.
« Bien, souffla-t-elle, voilà au moins quelque chose de positif. On prend nos affaires et on s'en va. »
Pendant qu'elle roulait en direction du château, Sharon se trémoussa pour extraire de sa poche le carnet de cuir rouge. de ses doigts dépourvus d'ongles, elle le feuilleta maladroitement jusqu'à la page qui l'intéressait. « Là, dit-elle, c'est cette adresse. C'est là que tu emmenais Alicia, chez ce docteur Chapovski. Tu disais que c'était un Polonais qui avait fui les nazis, un médecin des maladies nerveuses. Et comment se comportait Alicia au retour ?» Sharon haussa les épaules. « Comme d'habitude, soupira-t-elle. Elle inventait des histoires à dormir debout pour se rendre intéressante. Elle prétendait que le docteur l'avait hypnotisée pour la forcer à avouer des choses dégoûtantes. Ou bien, il lui avait assuré qu'elle avait raison d'agir comme elle le faisait, qu'elle était moralement ma sœur et qu'elle pouvait prétendre aux mêmes droits que moi. Bref, ça dépendait de son humeur. Personnellement, je n'ai jamais eu l'impression que le traitement lui était bénéfique. Hum, grogna Amy sans se compromettre. « Pourquoi tiens-tu à aller voir ce charlatan ?» lança Sharon. « J'espère tirer de lui certains renseignements. Mon instinct me conseille d'agir ainsi. Je vais lui obéir, car je n'ai aucun plan de rechange. » L'adolescente, contrariée, se recroquevilla sur son siège. De toute évidence, elle ne tenait pas à rencontrer le fameux docteur Chapovski. Pourquoi ? Se demanda Amy. Même si elle est en réalité Alicia, même si elle m'a menti, dans l'état où se trouve son visage, le bonhomme serait incapable de la reconnaître. Alors, il y a autre chose, mais quoi ? Arrivée au campement, elles chargèrent le camion sans attendre. Amy avait hâte de tourner le dos à ces lieux maudits. Après avoir fait le plein, elles prirent la route. Sharon, qui connaissait la région à la perfection, lui indiqua le chemin du village qu'elles traversèrent sans s'arrêter. De là, il leur fut facile de rejoindre la piste de terre serpentant à travers la zone interdite entre les fausses usines de carton-pâte. Elles échangèrent peu de mots durant le trajet. Au fur et à mesure qu'on se rapprochait de Londres, Sharon s'enfonçait dans sa bouderie, la bouche close, les bras croisés sur la poitrine. Grâce au billet de banque trouvé dans la roulotte des bohémiens, Amy aurait pu sans difficulté louer une chambre d'hôtel, mais elle préférait se perdre dans l'anonymat d'un camp de réfugiés comme elle l'avait déjà fait. Elle savait que les blessures de la fillette éloigneraient les curieux et les dispenseraient de justifier leur présence. Elle gara le camion dans un endroit calme, avec l'espoir qu'il ne serait ni bombardé ni volé, puis elle expliqua à sa fille comment allait se jouer la partie. « Tout est en ruine, » s'étonna celle-ci. « Finalement, c'est pas mieux qu'Ashdown. Moi qui croyais découvrir une belle ville, visiter des magasins. C'est affreux. » « La ville est bombardée presque toutes les nuits, » expliqua Amy. « Tous ceux qui le peuvent s'enfuient vers l'intérieur des terres. Nous allons essayer de ne pas nous attarder. Je vais téléphoner à ce médecin pour obtenir un rendez-vous le plus tôt possible. Quand nous irons le voir, tu prétendras être Alicia. Fais semblant de l'avoir déjà vue. » « Le bernier sera facile, » ricana la fillette. « C'est sûr qu'il ne risque pas de me reconnaître. Je suis devenue presque aussi moche que cette cinglée. » Munie du carnet rouge, Amy se rendit dans un bureau de poste et demanda qu'on lui passe le numéro du médecin. Elle dut attendre. Les bombardements avaient coupé de nombreuses lignes. En outre, les appels prioritaires reléguaient les coups de fil personnels en dernière position. On lui indiqua enfin une cabine. « Oui ?» fit une voix teintée d'accent. « Ici le docteur Chapovski. Que puis-je pour vous ?»« Je suis désolée de vous importuner, bredouilla Amy. Je suis Lady Ashdown. Peut-être vous souvenez-vous de moi ?»« Il y a un an, je venais vous voir en compagnie d'une fillette, Alicia Monroe. » Il y eut un silence au bout du fil. « Mon Dieu !» s'exclama le médecin. « Quel bonheur de vous entendre! Je vous croyais morte. Enfin, on m'avait dit, j'avais entendu parler d'un incendie. Avec tous ces événements, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Je vous ai adressé un courrier qui est resté sans réponse. Je suis heureux de savoir que vous avez survécu à cette épreuve. Comment allez-vous? Et l'enfant? » « Justement, Alta Ami,
C'est la raison de mon appel. Elle ne va pas bien du tout. Elle a été brûlée dans l'incendie et son comportement s'en est trouvé aggravé. Pourriez-vous nous recevoir ? Nous sommes de passage à Londres. » Chapovski l'assura de son entier dévouement et lui ménagea un entretien pour le lendemain matin, à 10 heures précises, l'une de ses patientes s'étant décommandée. Amir accrocha, en proie à un malaise diffus. L'accent du vieillard la gênait, ainsi que son excessive cordialité. « Il a été décontenancé, songea-t-elle. » Ensuite, il s'est repris et il a improvisé. Mais quelque chose sonnait faux dans ses paroles. En fait, il a eu ce ton particulier que les médecins adoptent pour parler aux fous. Le ton que les internes prenaient avec moi au St. Job's Infirmary. Elle avait gaffé, mais elle ignorait pourquoi. Elle sortit de la cabine persuadée d'avoir fait son premier faux pas. La police ou les services secrets étaient-ils sur ses traces? Avaient-ils contacté tous ceux avec qui elle avait entretenu des relations? Tant pis, décida-t-elle. J'irai tout de même au rendez-vous. Je ne peux pas continuer à courir dans le brouillard. Il faut que je sache. Et pour savoir, elle n'avait d'autre choix que de remettre les pieds dans ses propres traces, de refaire le chemin qu'elle avait emprunté avant d'être blessée à la tête. Elle était fatiguée, lasse, les aventures vécues au château d'Ashden avaient usé sa résistance nerveuse. Elle se savait en bout de course, tenaillée par la hâte de voir le bout du tunnel. Et tant pis si les types de l'intelligence service l'attendaient à la sortie de ce même tunnel pour la conduire devant le peloton d'exécution. Elle passa le reste de l'après-midi avec sa fille à écumer les boutiques pour se procurer des vêtements convenables. En tant que lady, elle ne pouvait se présenter chez Chapovski empaquetée de hardes. Leurs emplettes achevées, elles se firent admettre dans un dortoir pour sans-abri et s'isolèrent dans un coin. On leur donna à manger sans leur poser de questions. Le visage de Sharon agissait comme un formidable repoussoir. Elles passèrent une nuit tranquille, se levèrent tôt pour enfiler leurs habits neufs et quittèrent le local sans attendre la distribution du petit-déjeuner. Amy avait les mains moites et la respiration courte. Elle consulta le plan de Londres pour localiser l'adresse relevée dans le carnet rouge et héla un taxi. Le véhicule dut faire de multiples détours à cause des rues obstruées par les décombres. Il s'arrêta enfin au pied d'une maison d'allure modeste, noircie par la fumée des incendies. Amy dénombra 6 étages, le dernier étant occupé par une grande verrière aux vitres fêlées. Elle s'en étonna. Une lady n'aurait-elle pas plutôt choisi un praticien exerçant dans le quartier de Belgravia ou sur Bond Street, par exemple? Sharon, sur ses talons, elle entra dans le hall. Une plaque de cuivre lui apprit que le docteur Chapovski logeait au 5e étage. Un ascenseur poussif les hissa en gémissant jusqu'au palier souhaité. La cage d'escalier sentait la friture, le tapis était usé. Amy serra la main de Sharon et lui répéta ses instructions. La fillette se dégagea avec une mimique agacée. La porte s'ouvrit à son 2e coup de sonnette. Un homme de haute taille se tenait sur le seuil. Vêtu d'un complet croisé gris, il affichait une 60aine fatiguée, mais son visage était empreint d'une expression autoritaire qu'un sourire de commande n'arrivait pas à masquer. Il a une tête de dompteur, songea sottement Amy. Le médecin les pria d'entrer. Ses cheveux étaient blancs, ses mouvements hésitants comme s'il souffrait d'arthrose. L'appartement plongé dans la pénombre avait cet aspect étouffant et surchargé des logements victoriens qu'aucune femme de ménage n'a épousté depuis un siècle. Chapovski les poussa dans un cabinet aux fenêtres occultées par de lourds rideaux rouges. Une tête phrénologique en plâtre peint trônait au milieu d'un amoncellement de dossiers et de traités médicaux. « Ainsi, dit-il en s'asseyant, vous êtes Lady Ashden. J'ai failli ne pas vous reconnaître. Vous avez beaucoup maigri. Et cette jeune personne est Alicia ?» Son regard filtré entre ses paupières à demi baissées
allant de l'une à l'autre avec une méfiance toute policière. Quelque chose ne fonctionne pas, songea Amy. Toujours cette gaffe. Qu'ai-je dit ? À quel moment me suis-je trompée ? Mais déjà, Chapovski entamait un dialogue enjoué avec Sharon, comme s'il n'avait pas remarqué ses brûlures. Sans laisser à l'adolescente le temps de répondre, il se tourna vers Amy et lança. « Et vous, ma chère comtesse, comment allez-vous ? Comment avez-vous vécu ces dernières épreuves ?» La jeune femme improvisa un récit à partir des éléments fournis par la fillette. Le médecin l'écoutait, la tête penchée. Au bout d'un moment, abruptement et avec une certaine impolitesse, il pria Amy de le laisser seul avec l'enfant afin de pouvoir l'interroger sans contrainte. « Pouvez-vous patienter une demi-heure au salon ? » s'enquit-il d'un ton qui n'admettait pas la réplique. « Je regrette de ne pouvoir vous faire servir le thé, mais ma gouvernante a dû s'absenter en raison d'un deuil familial. »